ça n'a pas grand-chose à voir avec les manipulations mécaniques. Mais quand même, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le corps. Hein? Parce qu'à la limite, tous ces problèmes mécaniques devraient pouvoir avoir des équivalences chez l'animal. Chose de particulier au corps humain, c'est qu'il ne fonctionne pas comme le corps de l'animal, même du point de vue mécanique, à cause de son union avec l'âme, avec l'esprit, avec la grâce et avec sa prédestination à la résurrection. Il faut bien comprendre que dans le corps humain, il y a un côté animal, il y a un côté lumineux qui vient de l'âme, il y a un côté spirituel qui vient de l'esprit humain créé par Dieu, il y a un côté métaphysique qui vient de sa relation physique avec l'acte créateur de Dieu, et il y a un côté aussi qui vient de la grâce surnaturelle qui a un effet sur le corps, et enfin il y a un autre état du corps qui correspond à son inscription dans le livre de la vie et qui correspond en particulier à l'état dans lequel il sera dans la résurrection. Le corps glorieux sera donc subtil, agile, lumineux, glorifieux et impassible. Glorifié et impassible.
Les cinq, je vous ai dit ma destination, c'est ça. Vous pourriez répéter les cinq éléments.
Oui. Alors, les cinq étapes du corps. Le premier étape du corps, c'est que nous avons un corps physique semblable à celui de l'animal. Mais la différence avec l'animal relève de quatre différences. Ça veut dire d'après Empédocle, d'après la tradition, disons, de la philosophie de l'anthropologie, ou si vous préférez de la philosophie du corps, le corps est un composé d'eau, de terre, d'air et de feu. C'est les quatre éléments d'Empédocle. C'est un composé d'eau, de terre, d'air et de feu. C'est-à-dire, il y a des espaces libres. Vous savez que ce qui prend le plus de place dans le corps, c'est le vide. Ce qui prend le plus de poids dans le corps, c'est l'eau. Ce qui est le plus léger dans le corps, c'est le feu. Et le point de vue du purement matériel, c'est ce qui prend et le moins de place et le moins de poids. Alors ça, c'est le corps animal. On a un corps animal qui est un composé d'eau, d'air, de feu et d'air. D'ailleurs, à cause de ça, entre nous soit dit que quand il y a une relation amoureuse entre un homme et une femme, il y a quatre étapes dans la maturation de l'union dans l'unité sponsale. Quatre étapes. Dans le point de vue de l'éros, de l'union sponsale, de l'unité sponsale du de ce qu'on appelle l'unité de chair, s'il y a une communion des personnes, s'il y a une communion de grâce, s'il y a une communion divine, s'il y a une communion de lumière, s'il y a une communion de vie, s'il y a une unité sponsale, à ce moment-là, les quatre éléments vont introduire une maturité dans l'unité de chair. Parce qu'il y a ces quatre grandes strates, l'eau, la terre, le feu. Ça, bon. C'est ce qu'on fait quand on prépare les gens au mariage. On leur explique les quatre grandes étapes qu'il faut d'ailleurs qu'ils repèrent dans la maturité de leur adaptation mutuelle à la signification intime, intérieure, physique, lumineuse et sensible du corps, de l'autre, dans l'unité des deux. Cette sensibilité est très difficile à acquérir pour ceux qui n'ont pas de vie spirituelle, qui n'ont pas de maturité, qui n'ont pas de chasteté. Quelqu'un qui n'a pas la chasteté, c'est strictement impossible pour lui d'arriver à cette maturité et de décoller, j'allais dire, de l'unité donc sponsale au-delà du corps qui est un corps à queue. Ce qui effectivement fait que l'union va être plus ou moins boueuse. Vous comprenez, quand on mettait de la terre avec de l'eau, ça fait de la boue. Bon, mais ça, c'est ce qu'on a en commun avec l'animal. Mais la différence qu'on a avec l'animal, c'est qu'on a également une âme. Cette âme est une lumière, est un composé de lumière vivante. Le Concile de Vienne indique ceci. Donc pour les chrétiens, ce n'est pas une difficulté, puisque c'est une définition dogmatique. L'âme est la forme substantielle du corps. Elle est fabriquée avec une lumière vivante, et c'est l'âme qui détermine de l'intérieur ce que le corps est dans sa forme. La forme du corps ne vient pas du corps, la forme du corps ne vient pas des champs morphogénétiques, des structures génétiques. Malgré ce qu'en disent les positivistes d'aujourd'hui, avec les derniers prix Nobel, avec notamment les grandes structures, les grandes découvertes structurales du génotype de l'androphile, hein, c'est le prix Nobel de 1997, et bien c'est pas du tout à cause de ça que le corps prend cette forme-là. Le corps prend la forme à cause de l'âme. L'âme donne à son corps sa forme, à tel point que, par exemple, quand vous allez mourir, quand nous allons mourir, mais tous ne mourront pas, hein, deuxième épître de Thessaloniciens. On fait partie peut-être de la génération où justement quelques-uns d'entre nous ne mourront pas. Ce que je suppose, ce que la plupart d'entre nous bénéficieront de cette grâce-là, n'est-ce pas? Puisque ça y est, on est à l'heure où tout cela va. Donc, peu importe que lorsque, si jamais une bombe à neutrons explose, mon fond va immédiatement s'effondrer sur la table, le vôtre aussi. Et notre âme va se séparer. C'est très sympa dans le coup de ce que vous aurez. Ou alors, après qui vient. Non, au contraire, il nous faut beaucoup de courant d'air. Quand notre âme va se séparer de notre corps, la conscience visuelle, la conscience sensible, la conscience cognitive, la conscience animale, la conscience psychique et la conscience spirituelle se transférera de notre corps incarné, des sens externes, à une sensibilité interne, et en même temps notre âme, on va pouvoir voir notre âme telle qu'elle est, et on va voir l'âme de celui qui vient de mourir à côté de nous. Et vous verrez à ce moment-là que l'âme a exactement la même forme que le corps. Donc je reconnaîtrai parfaitement ma sœur, c'est celui de l'âme. C'était toute lumineuse, hein. Je vais pouvoir traverser ton âme, traverser la mienne, on se reconnaître en train de dire, ah, mais t'es morte, hein. Tu vas voir ton corps là, dans mon corps. C'est ce qu'on apprend au catéchisme. Après la mort, il y a sept étapes. Hein. La première étape, c'est la prise de conscience de la mort, la reconnaissance de la mort. La deuxième étape, c'est la prise de conscience de soi, et notamment de toutes les fautes qu'on a commises contre l'unité du corps, de l'âme, de l'esprit, de la grâce et de Dieu. La troisième, c'est le jugement particulier. C'est pas grave, c'est du matériel tellement élémentaire que... La troisième, c'est le jugement particulier. La quatrième, c'est la purification, l'étape purgative. Puis ensuite on a une étape illuminative, enfin on rentre par vie, et si Dieu nous prête vie, du moins par le point de vue du salut, là, de par vie, le voile c'est de cire, nous rentrons dans la vision béatifique, ordinairement 3 siècles à 4 siècles, pour une personne, on rentre aussi. À peu près, sauf si c'est des saints. Et le nombre de gens qui, après la mort, rentrent dans la demi-heure qui suit au ciel, c'est à peu près de 1 par génération. 1 par, allez, 1, soyons sympas, 1 tous les 5 ans. C'est pour ça qu'on prie pour les âmes du purgatoire, parce que, bon, peu importe, mais ça c'est une autre chose. Donc, deuxième composante de l'homme, c'est quand même une âme. Cette âme, donc, a la même forme que le corps, et c'est elle qui donne sa forme au corps. Dès lors que si j'ai un corps qui formellement va avoir mal, c'est mon âme qui est la lumière vivante de mon âme, qui porte ce mal, qui fait vivre ce mal, qui se nourrit de ce mal. Que ce soit une douleur physique, que ce soit une douleur, on appelle ça quelquefois psychosomatique.
Et
l'âme produit, l'âme est la forme du corps. Vous voyez comment fonctionne une lumière à l'intérieur. Donc, vous voyez par exemple la lumière, l'âme végétative du gland, d'un gland. Le gland, c'est la semence du chêne. Bon, alors l'âme, dans le gland, il y a une lumière vivante, une âme végétative. Cette âme végétative fait pousser le gland avec, bien sûr, les éléments extérieurs, eau, air, terre, feu, c'est normal, et petit à petit, il va prendre la forme du chêne. Mais c'est l'âme qui donne petit à petit cette forme au chêne. L'âme épouse la forme du gland. Si le gland était écrasé et qu'on pouvait voir la forme de l'âme végétative du gland, eh bien, il aurait la même forme que le gland. Et il a effectivement la même forme que le gland, sauf que l'âme végétative d'un chêne, lorsqu'il meurt, il se dissout immédiatement, à peu près dans les 3 secondes qui suivent. Quand c'est l'âme d'un animal, il se dissout. Il se dissout dans les minutes qui suivent, et pour disparaître à tout jamais, mais il va disparaître quand même dans, comme dit saint Thomas d'Aquin, dans la lumière qui actue la forme spécifique de cet animal. Quelque part, il y a quelque chose de pérenne. Il y a, oui, bien sûr, que cette âme, le jour où tu meurs, tu peux le voir, bien sûr, si tu assistes à des animaux qui meurent ou des arbres qui sont coupés, tu pourras bien sûr voir. Et ton âme, mais tu passeras pas beaucoup de temps parce que tu passes justement et très très immédiatement à l'avertissement, c'est-à-dire à la prise de conscience de toute ta vie, à la lumière de Dieu, puis ensuite au jugement particulier. Donc tu n'auras pas tellement le temps d'aller regarder à quoi ressemblent les âmes des animaux qui sont à mourir dans la pièce d'à côté.
Les âmes de personnes handicapées.
Les âmes des personnes, l'âme est la forme du corps. Donc l'âme est la forme du corps, donc elle épouse, elle fait vivre le corps. Et s'il y a des handicaps, supposons par exemple quelqu'un qui a une jambe qui n'a pas poussé ou qui a été coupée, eh ben, l'âme, elle vous le dira elle-même, tiens, j'ai mal au doigt de pied, alors qu'elle a très très mal au doigt de pied, elle a très mal au... Alors que bon, il lui manque 1m20 de jambe, elle a mal au talon. C'est son âme qui a mal. L'âme, elle est un tout. Elle est unie, du point de vue de la lumière, elle vivifie l'ensemble du corps, elle est la forme du corps. Si le corps a des déformations, l'âme, elle, n'a pas de déformation, elle est fabriquée avec de la lumière. C'est une lumière vivante, elle est la forme substantielle du corps. Donc, elle n'épouse pas les accidents. Du point de vue donc des accidents, ce qu'on appelle les accidents, ce n'est pas les accidents au sens, c'est au sens de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote, hein, c'est pas l'accident au sens, j'ai pris un grand coup de hache sur la tronche. L'accident, c'est, disons, des choses qui ne relèvent pas de la substance, qui ne relèvent pas de l'essence de l'homme. Donc, par exemple, si tu peux très bien avoir un visage particulier qui vient précisément de ta famille, de la culture, etc. Ça, l'âme épouse ça, parce que ça appartient à l'essence de l'homme. Les 7 dimensions de l'homme appartiennent à l'essence de l'homme. Mais il y a des choses qui n'appartiennent pas à l'essence des hommes et qui sont des accidents. Des accidents, ça veut dire des choses qui ne sont pas essentielles. Qui ne sont pas essentielles à ton humanité. Voilà. Par exemple, si je ne sais pas, si le handicap, c'est pas essentiel à ton humanité. Donc l'âme joue un rôle de formation du corps, de l'intérieur du corps, un petit peu comme la lumière dans une ampoule, dans un filament, je veux dire. La lumière dans un filament qui, de l'intérieur, donne la forme lumineuse suivante au corps. L'âme, c'est ça. Donc ce qu'il y a de très particulier, à cause du troisième étage qu'il y a dans l'être humain, cette lumière, donc cette lumière vivante de l'âme est immortelle. Pour une autre très simple, c'est que cette âme-là ne vient pas de la génération animale, elle vient de la génération humaine. Et par conséquent, elle s'origine dans l'unité, dans le point ontologique de l'unité spontanée de l'homme et de la femme. Et c'est bien ce point-là, bien de l'unité ontologique, du poids ontologique, le terme exact c'est le poids ontologique de l'unité spontanée de l'homme et de la femme. Ça, on y reviendra là-dessus parce qu'il faut avoir une clarté très très grande par rapport donc, à la thérapie du corps à partir du moment où aura sonné la 6e trompette de l'Apocalypse. Je ne vous dirai pas à quelle date puisque même si je la connais, c'est pas grave, mais c'est bientôt. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que, et on y reviendra sur ce point ontologique de l'unité du corps et de l'âme, d'une unité spontanée du corps et de l'âme. Ce point ontologique, comme dit le pape Jean-Paul II, il l'a enseigné en détail, s'empare du processus de fécondation. Il est indépendant du père, il est indépendant de la mère. Indépendant de la conjonction du père et de la mère, il vient de quelque chose de créé par Dieu, par la créatrice de Dieu, qui est la différence avec l'animal. Et il a une existence, ce point ontologique, et un support corporel qui est précisément le zygote. Le zygote n'est pas encore fécondé, le zygote va être fécondé, puis vous voyez, le spermatozoïde rentre dans l'ovule. Et le zygote commence, dès que le spermatozoïde commence à rentrer dans l'ovule, il n'est pas encore rentré, il commence à pénétrer, ça y est, c'est un zygote. Parce qu'aussitôt, il y a le premier nucléus femelle qui se divise en deux, et aussitôt, on se trouve avec 23 chromosomes, 23 chromosomes dans l'autre, le spermato rentre, et puis, il y a le support masculin qui rentre, puis qui essaie de s'approcher, puis un petit peu comme des... Et ils font un circulus comme ça dans l'ovocyte, fécondé, jusqu'à ce qu'ils aient finalement embrassé tous les ribosomes, toutes les molécules qui sont à l'intérieur de l'ovocyte, avec toute leur vibratoire personnelle, si je puis dire. Et là, ici, ce qui est porté, ce qui porte cette espèce de danse nuptiale au niveau de l'ovocyte qu'on appelle la fécondation et qui dure 15 heures, c'est porté par, le pape explique que ça c'est porté ni par l'homme ni par la femme, mais par une réalité ontologique. Attention, une réalité ontologique, comme dit le pape, c'est très intéressant parce que c'est différent de la réalité personnelle de l'homme, de la réalité personnelle de la femme, qui est une autre réalité, un petit peu comme le Saint-Esprit, est une réalité personnelle différente de celle de Dieu, la première personne, et de Dieu, la seconde personne. La troisième personne est un point ontologique, c'est une personne bien distincte du Père et du Fils. Il y a la première personne de la Très-Sainte Trinité, la seconde personne de la Très-Sainte Trinité. Et la troisième personne de la Très-Sainte Trinité, ce sont trois hypostases distinctes. Et le pape dit, il y a l'homme, il y a la femme, mais dans le processus de fécondation, il y a une troisième réalité. Et cette troisième réalité émane de l'unité sponsale, elle a un point ontologique qui est créé par Dieu, et qui a un support physique, et donc il a une existence et physique et ontologique. C'est ce que Saint-Père appelle le point ontologique de l'unité spontanée. Il a un support biologique qui est précisément cette tension de préparation à la créature de Dieu dans le processus de fécondation. Et l'âme vient, l'âme va sortir, l'âme de l'enfant sera créée par Dieu et sera sortir de ce point ontologique, ce qui fait une différence totale avec la réalité de l'âme psychique de l'animal.
Et l'âme est créée à ce moment-là.
Alors, non. Alors, donc, ici, ils sont en train de se flirter ensemble, de dire, oui, je me mets de l'autre côté, je me mets de l'autre côté. Puis, après, au bout de 7, 8, 9 heures, à peu près 9, 10 heures, même, on commence à mettre un peu la main, à se cajoler un peu, et à mettre ici, à se mettre dans le lit, un voile très léger. Voilà, qu'on appelle le fuseau mitotique, un espèce de fuseau. Et puis à un moment donné, ils sont tellement proches l'un de l'autre que du coup, ils sont tous émus. Et dans cette émotion, chacun va dupliquer ses propres. Donc il va y avoir au bout de 2 heures, il va y avoir supplémentaire, donc 11e, 12e, 13e heure, rapidement, ça dépend. Il va y avoir, chacun va produire le double de ses chromosomes. Donc avant que l'enfant soit créé, il n'y a pas 40 chromosomes dans l'ovocyte, il y en a 92. Puis d'un seul coup, 15e heure environ, ce fuseau se déchire et les premiers chromosomes mères et père, si je puis dire, fusionnent en un espace d'un dixième de seconde avec un processus que j'en ferai grâce. Pourtant, il est très très important pour comprendre le processus de la formation du corps, mais n'empêche que c'est très important de comprendre qu'effectivement, les chromosomes s'associent donc par paire. Et ça fait le premier génome au bout de 1 dixième ou 2 dixièmes de seconde. Donc on sait exactement l'instant à laquelle Dieu crée l'âme spirituelle de l'homme. C'est à ce moment-là, la seconde qui suit, puisque les autres chromosomes sont prêts, ils fusionnent et la première mitose, ça devient deux cellules. La troisième cellule est créée et l'autre mitose ne concerne que la première cellule mûre, mère et mûre, et qui va se diviser en deux. Il y aura un arrêt d'une demi-heure environ. Et le processus de mitotique, de division mitotique, va continuer au bout d'une demi-heure, et ça va donc se multiplier. C'est au 14e jour que la morula étant transformée en blastocyste va descendre et s'agripper à l'utérus de la mère. On appelle ça la fixation utérine. Et à ce moment-là, il va y avoir des cellules qui vont commencer à se différencier en trois grands groupes de différenciation. Au 19e jour, le cœur commence à battre, le 20e jour, le 21e jour, le sang de l'enfant. Les yeux vont se former au 21e jour, il reste encore 8 mois et demi pour que l'enfant naisse. Le premier organe qui marche, c'est le cœur. Alors ça, c'est intéressant parce que l'âme, contrairement à celle de l'animal, l'âme qui anime sa forme de l'intérieur à notre corps, c'est une âme qui vient de l'unité sponsale du Père et de la Mère, et en même temps, donc de la Créateur de Dieu. Ça c'est très très intéressant parce qu'on dirait, mais c'est l'animal, il faut bien un mâle et une femelle aussi. Oui, mais il n'y a pas de point ontologique de l'unité sponsale du mâle et de la femelle dans l'animal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de différence spécifique entre un animal et un autre animal. Tandis qu'il y a une différence substantielle entre une personne humaine et une autre personne. Et cette différence vient de l'âme. Et on y reviendra de toute façon sur les caractéristiques lumineuses de cette âme. On y reviendra parce que Jean-Jean a tout à l'heure évoqué les hypothèses un petit peu féeriques, il faut bien le dire, de M. Tesla, avec la qualification qu'il a donnée au processus tachyonique. Le processus tachyonique, il n'aurait pas dû dire tachyonique, Tesla, là il s'est trompé. Mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, mais il s'est trompé sur le vocabulaire. On y reviendra.
Pardon, mon père, excusez-moi, je suis vraiment novice, mais bon, donc moi, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, donc il y a le génome, en fait, va recevoir l'âme, une substance émanée de Dieu, créée par Dieu, qui est le troisième, qui est la petite lumière qui va...
Non, pas du tout. Non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit la différence qu'il y a entre un animal et un homme, c'est que l'âme animale, l'âme sensitive ou psychique, n'a strictement rien à voir du point de vue de sa nature, de sa manière d'informer le corps, que l'âme de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'âme de l'homme provient d'un poids ontologique, d'ordre métaphysique, que l'animal n'a pas comme source.
Donc ce poids ontologique, c'est une substance émanée de Dieu.
Non, c'est une substance, non, c'est une réalité qui émane de l'unité de l'homme et de la femme du point de vue métaphysique. Mais on y reviendra, c'est un autre problème. Donc vous avez le troisième étage qui nous différencie de l'animal, c'est que nous avons également un esprit vivant. Nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels et nous avons le partage avec l'animal l'âme, mais nous avons aussi, avec la différence que notre âme est une lumière qui, elle, est immortelle à raison de notre origine de l'unité sponsale de l'homme et de la femme. Mais l'esprit, lui, l'esprit vivant, fait que nous avons à travers justement cette âme a une capacité de voir ce qui est invisible, notre âme a une capacité de pénétrer et de vivre de quelque chose qui est autre qu'elle-même, et enfin notre âme est capable de se donner totalement, substantiellement, en dehors d'elle-même, à un autre qu'elle-même. ce qu'on appelle la liberté ontologique, la mémoire ontologique, l'intelligence contemplative spirituelle et le cœur spirituel, ou si vous préférez la volonté profonde. Les trois puissances spirituelles de l'âme sont les trois émanations de l'acte créateur de Dieu dans notre âme qui viennent informer notre corps. Donc la principale détermination de notre corps, la principale destination de notre corps, la principale finalité de notre corps, le principal fondement de notre corps, c'est l'activité contemplative, l'activité extatique de la vie, la liberté ontologique, de la mémoire primordiale et terminale de l'homme. Donc on y reviendra, le point de vue spirituel est tout à fait caractéristique de l'homme par rapport à l'animal, ce qui donne à notre corps une différence tout à fait spécifique de celle de l'animal. Donc le thérapeute doit en tenir compte dans le traitement de la douleur. Enfin, il y a, en mettant petit à petit, on va avancer, ne vous inquiétez pas. Je vous donne par exemple la table des matières, hein. Tête de chapitre. La quatrième caractéristique du corps, c'est qu'il est porté bien sûr par une âme, vérifié par un appel à rentrer dans l'invisible par le point de vue du corps et à travers le point de vue du corps, c'est l'esprit. L'esprit qui fait qu'on est un être humain et une personne, mais tout ça, ça vient de l'acte créateur de Dieu. C'est l'acte créateur de Dieu qui intervient du dedans du point ontologique de l'unité spontanée du corps de l'homme et de la femme, dans la lumière de l'âme qui est en train d'advenir à l'apparition du génome, et à l'instant même de cette lumière qui advient dans l'apparition du génome, l'acte créateur de Dieu s'inscrit dedans, il surgit d'un seul coup, il se rend personnellement présent, et son acte créateur donne une participation à son être, à son acte pur. L'éternité d'avoir la création du monde et de commencer à exister. C'est une participation. La création de Dieu est une participation à l'existence de Dieu. Et c'est comme cette participation à l'existence de Dieu, comme j'ai un corps animé, comme j'ai un corps lumineux et comme j'ai la présence de Dieu, c'est pour ça que je vais avoir trois grandes puissances spirituelles dans l'âme. C'est ça l'explication de l'existence des trois grandes spirituelles, trois puissances spirituelles dans notre Saint-Augustin. La personne de Saint-Augustin, c'est de la philosophie, ça. C'est l'expérience, en tout cas. Donc, une chose est sûre, puisque Dieu surgit du dedans de cette lumière, à l'instant même où cette lumière apparaît, à ce moment-là, il crée l'âme spirituelle. Donc, à l'instant que nous avons dit, le pape a dit, 24 février 1998, l'âme spirituelle. À la conjonction du patrimoine génétique qui constitue le génome de l'homme. Mais quel génome de l'homme? Qui imprègne et vivifie ce génome. Le pape, le 24 février 1998, c'est-à-dire exactement le dixième de seconde où elle crée l'âme spirituelle par Dieu, c'est à l'instant de la partition du premier génome. Donc c'est pas au moment de la conjonction du père et de la mère, c'est pas au moment où le zygote commence à venir, non, c'est à la fin du processus de fécondation, avant qu'il y ait la première division mitotique. La première mitose, et donc, vous voyez, c'est encore quand apparaît la première mémoire génétique, parce que cette mémoire génétique a ceci de particulier par rapport à l'animal, c'est qu'elle est spirituelle. Donc notre mémoire spirituelle, c'est-à-dire notre existence spirituelle, notre vie spirituelle, s'inscrit dans le corps, dans une mémoire ontologique spirituelle, que Saint Augustin a appelée la memoria Dei, la mémoire de Dieu. Dès lors, je quitte la memoria Dei au niveau simplement fondamental de mon origine dans le corps originel, je vais avoir toutes les maladies. Mais en particulier les maladies spirituelles, bien entendu. Une des premières maladies, j'étais extrêmement sensible au péché de mes parents, au péché du monde.
non unité totale de l'esprit dans la mémoire génétique, dans ma liberté, dans l'ordre du don. Et du coup, je vais m'inscrire moi-même, à ma manière, à moi, dans la participation personnelle, libre, lucide, volontaire, lumineuse, personnelle et intérieure, au péché originel. Il ne faut pas dire que le péché originel, c'est Adam qui l'a fait et que moi, je l'éguste. J'ai participé à cette faute originelle par une coopération personnelle, lucide, volontaire, plénière, dans la liberté ontologique de ma mémoire ATI, dans l'origine. J'ai d'ailleurs, je me suis permis d'écrire un petit livre qui s'appelle Les éclatements de l'un. Je suis sorti de l'unité originelle de l'homme, du corps, de l'âme et de l'esprit dans la grâce de Dieu. Et ça a produit, par propagation du péché originel, dans ma manière d'y participer personnellement, librement et lucidement, 14 grands éclatements de mon identité spirituelle, psychologique et individuelle. Et il y a donc toute une petite thérapie, mais ce n'est pas la thérapie du corps, c'est la thérapie de la rédemption de notre péché originel personnel. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre, c'est parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à la rédemption, la demande de pardon, de notre manière d'avoir participé au péché originel, lucidement, volontairement et merveilleusement. Voilà, donc, de point de vue spirituel, donc deuxième étage, l'esprit humain, troisième étage, la présence de Dieu. La présence de Dieu, il se rend présent en me créant. Et on a donc éprouvé dans notre mémoire ontologique, et on en garde aujourd'hui la mémoire corporellement, dans notre mémoire génétique, dans chacun de nos génomes, nous avons fait l'expérience de cette présence vivante, lumineuse de Dieu. Et effectivement, quand il a surgi personnellement en me créant, j'ai été, mon âme avait les dimensions, non, mon âme avait les dimensions de l'acte créateur de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait l'expérience physiquement. En même temps que Dieu me crée, il crée tout ce qui existe. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En même temps qu'il m'a créé, il crée tout ce qui existe. Donc physiquement, j'ai été porté lucidement dans un toucher. C'est vrai, c'est un toucher qui était très... Est-ce qu'on peut dire rapide? Je n'en sais rien, je n'en sais strictement rien, mais je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'en sais strictement rien, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, on a été présent à tout ce qui existe, en même temps, la créateur de Dieu, à travers l'esprit nouvellement créé. Donc j'ai une mémoire de Dieu, mais en même temps, j'ai accompagné Dieu dans tout son acte créateur, dans sa prise de position paternelle vis-à-vis de tout ce qui existe et tout ce qui est vivant dans l'univers. De sorte que dans le corps, par le corps et avec le corps, je suis responsable de tout ce qui existe dans le monde. C'est la créature de Dieu que je quitte, bien sûr, que je quitte par ma participation au péché originel. Mais n'empêche que j'ai cette mémoire. Est inscrite dans le corps. Vous voyez, je ne sais pas si quand vous étiez enfant, vous aimiez sûrement regarder ces petites bêtes-là, ces verluisants-là. Hein. Les verluisants, ils sont gros comme ça. Et puis, il y a un petit point qui fait à peu près un quart du corps du verluisant et qui brille. Ben voilà, dans toutes les cellules de notre corps, il y a un génome, il y a un noyau. Ce noyau, c'est le génome, qui est exactement le même dans toutes les cellules du corps. Vous avez 700 milliards de cellules dans votre corps, je crois, quelque chose comme ça, je me trompe peut-être de zéro même, hein. mais en tout cas, chaque cellule a sa petite lumière vivante, qui est la mémoire de mon origine, comme si ça faisait ça, c'est au bon gré, c'est engangé dans une ténèbre qui vient de la propagation du péché originel. On y reviendra là-dessus, sur la manière dont Saint-Thérèse d'Avila parle de cette manière dont le corps est enténébré par rapport à cette lumière originelle, le roi de l'université en tout ce qui existe, demeure au fond de nous, dans l'unité de notre corps, de notre âme et de notre esprit. En tout cas, au départ, troisième, quatrième niveau, donc, il y a la présence vivante de Dieu qui réalise ce qu'on appelle le mystère de la grâce originelle.
Le mystère de la
de la grâce originelle. La grâce originelle, c'est une participation consciente, vivante et effective à la lumière, à la vie intérieure, intime de Dieu. Mais cette grâce, comme vous le savez, plus originelle, nous a fait quitter la grâce originelle avec la chambrière. Et donc on a ici, cette expérience-là donne à notre corps une détermination que l'animal n'a jamais eue et ne peut pas avoir. Donc on ne peut pas traiter un être humain, là encore, à ce niveau-là, de la même manière que l'animal à cause de ça. Le fait est que parmi les gros inconvénients du péché, du mal et de la dislocation des 14 éclatements de notre unité vivante du corps et de la lumière vivante de l'esprit en nous, et puis aussi une espèce de séparation, à dire, de Dieu, qui tient d'ailleurs à beaucoup de choses, parce que la séparation de Dieu ne tient pas au péché originel, ni au péché, pas seulement au péché symbiotique non plus, pas seulement sur le péché symbiotique au péché personnel, ni pas seulement à l'association de au péché du monde qui a un poids contre l'union sur le monde, pas un phénomène qui est un phénomène qui relève de la nature, de la relation de Dieu. C'est que Dieu est notre Père, et donc quand il nous crée, il nous livre à nous-mêmes dans ce qu'on appelle l'amour séparé. Donc l'amour séparé qui est une certaine séparation de l'amour directement informant. Thank you.
quitter les éléments de la gravité. Maintenant, c'est un élément là-dessus. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. C'est excellent. C'est ravissant. On a commencé par un ravissement. On a commencé par l'amour. Il y a un espace qui est purement et uniquement, malheureusement, psychique. Qui est purement psychique. Donc ici, alors, on va du coup faire une nouvelle strate. Voilà, après pièce originelle, je vais trier ici. Voilà, si vous voulez. Il y a des petites puissances intermédiaires qui sont bien plus grandes que nous et qui circulent allègrement sur les fréquences métaphysiques. Et alors, eux, ils n'ont qu'un seul souci par rapport à nous, c'est de pouvoir pénétrer dans cette partie libre ici, là. Comment vont-ils faire? Comment je vais faire pour m'installer là?
C'est le premier commandement de Dieu, hein. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, c'est très simple. Hein? Moi, je suis par exemple pleinement réalisé. Je suis dans la modélité de l'homme réalisé parfait. J'ai contracté dans l'anatement toutes les parties potentielles de mon âme mentale, de mon âme mentale. Je suis rentré dans l'anatement, c'est-à-dire dans la zone d'existence de ma mémoire. Et du coup, j'ai, au lieu que ma contraction soit ici, je la contracte encore plus. Donc je vais plus loin encore que les échappements du péché originel et que les effets contraignants du péché du monde et l'influence des puissances ténébreuses, et je contracte beaucoup plus fortement l'unité physique de l'esprit, de l'âme et du corps, et c'est ce qui produit l'ouverture des chakras. Par des techniques particulières, par des techniques particulières qui sont très simples, faciles, je peux vous faire un chakra si vous voulez, c'est très facile. Au chakra, je vous donne un chakra quand vous voulez, 2 minutes, je vous préviens, il faut 10 ans.
10 ans de travail.
10 ans de travail assidu et d'exorcisme. Donc, vous vous ouvrez d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous, effectivement, par exemple, l'ouverture du chakra, les phénomènes initiatiques, les liturgies ésotérico-initiatiques ont pour but de faire que les personnes puissent se trouver dans un plasma de lumière, de bonté, d'amour, de bienfaisance, cosmique, de préférence, mais aussi intérieure, que le monde intérieur puisse un petit peu se dilater, et qu'il ne soit plus contraint comme le sont les pauvres imbéciles qui ne sont pas réalisés et qui du coup sont pénibles, ont des mâchoires mandibulaires comme ça. Donc libérons-nous, rentrons dans la liberté cosmique christique, et on va donc s'ouvrir le chakra, se libérer, rentrer dans le point de vue de la libération astrale et rentrer précisément dans la communion avec l'ensemble du cosmos, Gaïa et compagnie. Et en particulier dans la lumière. Les techniques pour obtenir précisément cette ouverture supplémentaire à la circulation libre des fréquences métapsychiques, des puissances intermédiaires sur lesquelles circulent librement les puissances intermédiaires, c'est très facile, je vous dis, il suffit donc de contraindre par des péchés qui sont donc cette fois-ci métaphysiques, qui sont tous contre le premier commandement de Dieu, tous. De contraindre l'esprit à se réfugier de manière encore plus contraignante au centre invisible de l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, et donc l'unité entre l'esprit vivant de la personne et le corps physique, c'est-à-dire les sens externes, les yeux, l'ouïe, l'odorat, le goût et le sens du toucher, sont de moins en moins habités par le sens. Du coup, quels sont les sens qui vont dominer? C'est le ressenti. Donc, le travail du ressenti.
J'ai entendu la fin de la phrase. Les sens sont de moins en moins habités.
Les sens externes. De moins en moins habités par les trois axes de ta vie personnelle, spirituelle. Contemplative, affective, extatique, et liberté originelle dans l'ordre du don, c'est-à-dire vocation de la plénitude éternelle et immortelle de ta personne. Donc ça va de moins en moins habiter ton corps physique incarné, et en particulier agissant à travers le regard, l'ouïe, enfin à travers les sens externes, les sens du toucher. Et du coup, ça va prendre de plus en plus la place au ressenti. Donc la culture du ressenti est une culture métaphysique, de rétractation spirituelle, et du coup, ça accentue l'ouverture des centres corporels, et du coup, c'est l'accès libre, définitivement, à toutes les puissances intermédiaires cosmiques, que nous appelons les démons, parce que vous savez que nul ne verra une puissance angélique dans le cosmos, sauf celles qui ont été envoyées dans le cosmos en raison de leur révolte. Tous ceux qui n'ont pas accédé à la volonté de Dieu derrière Saint-Michel-Archange ne sont pas sortis du cosmos, mais sont rentrés dans le diaphane de la Sainte Trinité et dans la lumière gloriée de la vision béatifique. Donc tous ceux qui circulent, tous les corps, toutes les petites lumières qui sont des grandes lumières. On ne fait pas une session sur la démonologie, mais c'est dommage parce que c'est très intéressant. Mais une chose est sûre, c'est que tous ceux qui circulent sur les puissances, sur les fréquences métapsychiques, c'est tous des puissances déchues. Toutes. Il n'y a pas une seule. Ah mais sinon, c'est un ange vraiment de lumière. Non. C'est un ange de lumière, mais déchu. Parce que si tu connais toi un ange de lumière déchu, qui n'est pas un ange de lumière, eh bien ça veut dire que tu n'as rien compris. Tous les anges déchus sont des anges de lumière. Ah oui, mais c'est un ange d'amour. Tous les anges déchus sont des anges d'amour. Ah oui, c'est un ange de compassion. Mais tous les anges déchus sont des anges de compassion.
Donc, heureux celui qui comprend qu'il est strictement impossible de déterminer si un ange de lumière est un bon ange parce qu'il y a la lumière de l'amour et de la compassion.
Ça constitue leur être de toute façon.
Ils sont constitués comme ça. Ils sont constitués dans l'amour de Dieu, c'est des êtres de lumière de Dieu, c'est des êtres d'unité absolue. Donc il y a forcément, substantiellement dans l'espèce angélique, même les anges déchus, il y a ces trois éléments. Donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a aucun discernement possible, positif à faire sur les puissances intermédiaires qui circulent dans les toboggans des puissances, des fréquences métaphysiques.
J'ai une demi-question. L'histoire de la flamme violette de l'archange Saint-Michel, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je n'ai jamais participé à ça, mais j'ai des amis.
Je sais pas.
Alors, on dit que... Alors, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est...
Non, je ne sais pas.
C'est l'histoire des mystères de la flamme violette de l'archange Saint-Michel.
Je ne sais pas. Je suis pas au courant de cette affaire et je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas comment ils font. Déjà, je vais vous dire, flamme violette...
Jamais
voulu
aller là participer parce que ça
m'interrogeait. Oui, non, mais attention, donc, il y a énormément de sectes qui utilisent le nom de Marie, qui utilisent le nom du Christ, et qui utilisent les phénomènes angéliques lumineux. Et même les noms comme Raphaël, Gabriel, Michael, etc. Donc on peut faire très attention, c'est pas parce qu'ils utilisent ça, le Christ, ça je vous l'expliquerai si vous voulez. Il y a, c'est ce que disent les apôtres dans la Didaché, l'enseignement commun des apôtres, le Christ est passé, il est mort, il est descendu aux enfers, il est ressuscité d'entre les morts, il est passé au-delà du monde cosmique, et il est rentré dans l'anastase. Donc ici, il est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire, on appelle ça l'égarcie, c'est ce que dit l'ange, égarcie, il est ressuscité. Ça veut dire, il s'est levé d'entre les morts, il a pris possession de tout l'univers. Et quand Jésus s'adresse, c'est-à-dire, il ressuscite, anastase, il est ressuscité. Il y a deux mots pour résurrection. Anastase, ça veut dire qu'il est sorti du monde cosmique. Il est sorti du monde cosmique avec son corps, et c'est corporellement qu'il est dans l'intérieur de la Sainte Trinité. Et donc, il a abandonné dans l'anastase, c'est-à-dire la résurrection, il a abandonné l'exercice de la résurrection. Voilà pourquoi il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Je ne suis pas remonté vers mon Père. Et donc, ne me touche pas. Il est ressuscité. Mais attention, aujourd'hui, les apôtres ont dit, pourquoi est-ce qu'il y a deux sortes de résurrection? Parce que Dieu a voulu, dans la résurrection du Christ, conserver la liberté au sort. Et comme il a voulu conserver la liberté, il a dit, voilà, les saints, parce qu'ils sont pervers, s'attacheront à l'exercice, c'est toutes les énergies christiques, et l'union au Christ, christique, cosmique.
L'histoire du Christ cosmique.
Oui.
Alors ça, c'est la démonologie.
Non, c'est pas la démonologie. Bon, je vais sur rien. Et ceux qui s'attacheront au Christ ressuscités au-delà de ce monde cosmique, et c'est toute la différence, comme l'explique le Didaché, l'enseignement commun aux deux apôtres, entre les chrétiens et les antichrists. Les antichrists s'attachent donc au monde métaphysique pour pouvoir s'épanouir dans ce que le Christ a opéré, le Christ en ressuscitant dans le Christ. En ressuscitant, c'est corporellement, physiquement, que Jésus s'est emparé de tous les éléments de matière. Donc il a fait une révolution copernicienne de la matière. De l'intérieur, de la substance même de la matière vivante, il y a eu un retournement de crête que vous ne voyez pas. Mais n'empêche que le résultat, c'est que vous avez une nouvelle mémoire, je vais dire, égartique, de tous les éléments fondamentaux de la matière vivante. Ça, c'est la résurrection du Seigneur qui a fait ça. Qui rayonne. Elle rayonne de partout. Or, les ésotéristes, les métaphysiciens, les nouveaux thérapeutes, les nouvelles âges, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de rentrer dans le ressenti, ils essaient de récupérer, effectivement, toutes les énergies positives. Le Christ, c'est positif ce qu'il fait. C'est que ça vient du Christ, ça vient pas d'ailleurs. Et ils essaient de récupérer tout ça pour aller bien sans avoir à aller en Dieu. Donc prendre tout ce que le Christ a donné, qui est une thérapie merveilleuse du relèvement, et physique, et psychique, et même anthropologique, et qui vient du Christ sans avoir à rentrer extatiquement en Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est la définition même de ceux qui font du magnétisme, de ceux qui font du médiumnisme, de ceux qui font du ressenti, de ceux qui font, etc. Vous voyez ? Donc, de ceux qui font, vous connaissez la sorcellerie, de ceux qui font du magnétisme, ça. Ça, alors, bon, là, il rentre dans la spiritualité du Christ cosmique. Bon, de ceux qui rentrent dans les illusions très élevées, mais on y reviendra, puisqu'on n'est pas si jour là-dessus. Mais simplement, vous comprenez, si le partage des eaux, il faut comprendre où se fait le partage des eaux. Si on ne comprend pas comment Dieu crée le corps humain, et bien on ne peut pas comprendre le partage des eaux.
Alors ma question, c'était le sacrement du baptême, où intervient-il ?
Le sacrement du baptême, lui, il n'intervient pas.
Il efface le péché originel.
Il n'intervient, mais non, il efface pas le péché originel. Il nous pardonne le péché originel. Il pardonne. Donc ici, si vous voulez, on pourrait rajouter avec un grand trou que le péché originel a fait, allez, on va mettre ici un gros trou. Voilà. Une grosse tache sur un buvard. Une tache. Alors, péché originel, voilà, il a fait une tache. Bon, alors, voilà. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avec le baptême? Il nous sauve, il nous pardonne, il nous sauve du péché originel. Mais les conséquences du péché originel, parce que vous voyez, le péché originel en faisant une tache comme ça, il fait une tache comme ça, et du coup, ça éclabousse, hein.
Surtout avec les ondes de métapsychique.
Ça éclabousse, non, mais ça éclabousse, non, mais sans parler du métapsychique, ça fait plein d'éclaboussures. Donc il vous pardonne à la rigueur, admettons qu'il vous lave du péché originel, et qu'il le remplace par quoi? Il le remplace par. Le baptême remplace la tâche du péché originel par ce que saint Thomas d'Aquin et le catéchisme de l'Église catholique appellent le caractère du baptême. Le caractère. C'est le caractère du baptême, mais les conséquences du péché originel en nous, à savoir la rétractation de l'esprit par rapport au corps, demeurent. Les conséquences du côté de la concupiscence, ici, demeurent. Les conséquences du côté de l'orgueil, demeure, et les conséquences du côté psychique demeurent aussi. Donc il y a quatre conséquences du péché originel qui demeurent. Mais la tâche est remplacée par le caractère du baptême, et ce caractère du baptême, et ça, m'excuse, on est tout à fait en dehors, va permettre de nous permettre à nous de poser des actes de foi surnaturels, des actes de foi divins, des actes de foi théologales, des actes d'espérance théologale, des actes de vie surnaturelle, chrétienne. Bon, mais ça c'est un autre sujet, je m'excuse, hein. C'est tout à fait un autre sujet. Donc je reviens et je dis simplement que, à titre simplement, donc, le discernement, si on veut, le discernement que les apôtres ont donné, c'est très simple. Il y a deux catégories de gens et il y a deux manières de chercher la vérité. Il y a la manière de ceux qui sont pervertis profondément et qui recherchent l'épanouissement et la guérison dans la gnose, dans le ressenti, dans le métaphysique, dans les énergies et dans le christique. Et enfin, il y a ceux qui suivent le Christ pour vivre de la volonté du Père, des commandements de Dieu, de la grâce des sacrements. C'est vrai. Et ils ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils font du ressenti, les puissances pénètrent dedans. Et même si j'ai pratiqué des exorcismes pour vous chasser, je ne sais pas, les 23 démons, si je fais ça, c'est pas 23 démons qui sont partis, 23 démons, ça vous pouvez être sûr. Mais c'est pas 23 démons qui reviennent, c'est 140. Ils sont trop contents, ils disent, attends, on a fait le ménage, et oui, c'est pas trop beau, hein.
144. Et l'état de cet homme est encore pire.
Et je suis dit, attends, l'état de cet homme est bien pire que l'état de précédent. Hein, voilà pourquoi, quelquefois, il est préférable de ne pas de pratiquer la prière de délivrance des exorcismes sur certaines personnes qui n'ont pas renoncé à ne pas fermer toutes les portes à la pénétration des puissances intermédiaires. Donc vous voyez bien que le corps, maintenant, je reviens sur le sujet, que sur l'avant, je voulais vraiment, pour la première, psychite, ça veut dire, je fais psychite depuis une heure, psychite, ça s'appelle, bon, faire psychite, chez nous, à l'université, on appelait ça la crème de lait, vraiment pour les débutants, quoi. Bon,
niveau CM1. Voilà. Ce petit fil, la crème de lait, c'est vraiment la confiture.
Cette confiture, vous avez sorti un livre un peu là-dessus, parce que moi j'ai un fils, il est en train de se planter, et j'aimerais bien lui faire dire quelque chose.
Oui, bien sûr, bien sûr. Madame de Parcolette de Lème est en train d'écrire un résumé de toutes nos recherches communes depuis une dizaine d'années sur ce sujet. Alors donc, il y a plein de trucs qui se font, ne vous inquiétez pas. Alors donc, je suis assez fidèle à ce que vous recherchez, donc bon, très bien. Alors, simplement, ce qu'il faut retenir, dans l'approche thérapeutique qu'on veut faire du corps, il faut soulager la douleur, mais il faut donner la paix. La paix, c'est quoi? Dans le langage biblique, hein, la paix, c'est quelque chose qui vient de l'unité totale entre la vie divine, l'esprit de l'homme, le psychisme de l'homme, la lumière de l'homme et le corps de l'homme. Quand tout est dans l'unité, il n'y a plus de paix. À ce moment-là, c'est la paix. Quand tout se repose dans l'unité substantielle, c'est la paix. Donc dès lors que je fais des thérapies, et si par exemple je suis ici, il faudrait qu'on fasse des dessins animés, quoi. On va faire ça sur internet maintenant, avec des clips là. Alors le gars, il est comme ça. Bon, il a déjà sa rétractation spirituelle par rapport au corps physique. Dans le corps originel, c'est comme ça. Voilà, dans le corps originel, voilà, c'est le corps est là, d'accord?
Pardon, père.
Et tout l'esprit habite le corps, tout.
C'est pour illustrer quoi, ça?
C'est pour illustrer ce que je viens de vous dire en résumé. Donc, je suis dans le corps originel, l'homme normal, c'est ça. C'est la ressemblance de toi. Si vous êtes à la fin de votre vie, c'est que vous voulez aller au ciel, si, en raison du mariage spirituel, passage à la septième demeure d'union transcendante. Votre la vie divine de la grâce se saisit de tout ce qu'il y a en vous d'âme, d'esprit et de corps. Vous êtes comme ça. Mais cette fois-ci, ce n'est plus avec la grâce originelle, ce n'est plus avec la grâce.
Faites la grâce sanctifiante.
Toute la différence qu'il y a entre la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. Il y a deux sortes de grâce. La grâce actuelle et la grâce
sanctifiante.
Voilà, ça c'est CE1. Non, il n'y a pas de grâce du
chantier. Qu'est-ce que c'est que la grâce actuelle?
Alors, la grâce actuelle, c'est transitoire. La grâce actuelle, c'est ici, vous voyez, péché originel, rétractation du point de vue spirituel qui n'informe plus complètement votre corps.
D'accord.
Voilà. Donc la grâce, si vous recevez une grâce actuelle, ça fait quoi? Dans la grâce actuelle, va faire quoi? Va faire ici. Voilà. Votre esprit qui est ici, par la grâce actuelle qui vous est donnée, alors on va le mettre en bleu, parce que c'est une grâce actuelle, vous mettez une grosse, bulle dans une baignoire, hein, si bien que votre esprit. Scories qui étaient ici, là, ben, du coup, elles ont tendance à partir. Quoi. Vous vous sentez mal. À chaque fois que vous sentez une grâce actuelle, ça dure peut-être 10 minutes, 5-10 minutes, vous voyez. Par exemple, vous regardez le film de Mel Gibson. Mm-hmm. Voilà, vous regardez le film de Mel Gibson, vous allez recevoir une grâce actuelle, ça automatiquement.
Oui.
Même si vous en êtes un péché mortel, vous recevrez une grâce actuelle, ça c'est clair. Alors la grâce actuelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir du centre de votre esprit, vivant, incarné, et elle va, du coup, prendre de la place. Mais du coup, votre esprit vivant, il va prendre plus de place. Mais du coup, il y aura moins de place pour les scories qui sont à l'intérieur, qui se planquaient bien là. Ils se planquaient bien là, les scories. Hein? Moi? Ils se planquaient. Ils avaient bien mis des trucs pour se planquer. Et moi, ça va très bien. Hein? Moi, j'ai des apparitions, je veux faire le bien, moi, j'ai toujours aimé, et tout ça. Bon, jamais fait comme les autres, tu vas respecter les gens. Bon, la voix des Parisiens, ils ne comprennent pas. Donc, c'est moi je. Moi je suis christique. Bon, alors donc,
Alors, je reçois ça, et du coup, ça pousse, vous voyez, ça pousse cette corée, et bon, je me sens mal. Oh, alors, j'ai reçu une grâce, et je dis, je veux pas rentrer dans cette église, moi je me tirais, hein. Je me sens mal. Et oui, mais attends, connard, tu l'as fait rentrer, alors ça sort. Alors, quand tu fais rentrer, t'es content, et quand ça sort, t'es pas content. Espèce de sauna avec une CDI. Oui, donc ça va pas. Alors donc ça, c'est une grâce actuelle. Ça dure à un moment donné. Ça dure. Allez.
C'est quand on est plus près de laisser aller, la grâce peut rester plus longtemps, non?
C'est transitoire. Et la grâce actuelle est transitoire, c'est sa première caractéristique, elle ne dure pas longtemps. Elle ne dure pas tout le temps. Deuxièmement, elle ne vient pas de vous. Elle vient du fait que quelqu'un a prié pour vous. Quelqu'un s'est sacrifié pour vous, le prêtre a dit la messe, et puis il a prié pour tous les pécheurs du monde, et hop, vous avez reçu une grâce actuelle. D'accord ? En fait, l'Antichrist, à un moment donné, il voudra supprimer toute messe sur la terre, parce qu'il aura tellement envahi, métaphysiquement, toutes les parties disponibles du point de vue physique de l'homme, que dès qu'une messe sera dite, les gens vont se sentir mal. Donc la seule solution pour qu'il y ait la paix dans le monde, la suppression définitive, universelle et totale de toute possibilité de célébration eucharistique sur la terre. Et ça durera 3 ans et demi. Et nous serons, nous, les témoins, enfin, pas nos enfants. Et vous comprenez pourquoi l'Antéchrist voudra supprimer ça? Justement pour supprimer les sources de douleur. Si on comprend bien que la suppression de la douleur n'est pas une fin en soi. C'est pas la suppression de toutes les douleurs qui sont une fin. Pour supprimer la douleur, ah oui, c'est un salaud. Mais oui, je vais supprimer la douleur. Ah, mais si c'est un salaud, ne supprime pas la douleur. Il y a des fois où si tu supprimes la douleur, tu fais quelque chose de très mal. Oui, parce que tu empêches, il ne faut pas qu'il souffre, le pauvre garçon. Mais à ce moment-là, c'est pas bien. Il ne faut surtout pas que tu pries pour lui, etc. Tu vois, il ne faut pas qu'il se convertisse. Oui, mais attends, s'il meurt comme ça, je veux dire, il passera pas par le jugement particulier. Alors voilà. Donc ça, c'est une part actuelle. La grâce sanctifiante, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle surgit du fait même de l'activité spirituelle de l'homme avec le caractère du baptême et avec le fruit des sacrements. Et du coup, c'est un fruit du dedans de la personne. Ça vient de lui, c'est en relation de ses. Et du coup, la croissance de la grâce s'inscrit et demeure. C'est une grâce habituelle, elle sanctifie. Et donc, elle opère progressivement la réunification du corps, de l'âme et de l'esprit dans la vie surnaturelle, le mariage spirituel avec Dieu, qui est d'ailleurs la destination de l'homme. D'accord? Vous me suivez? Alors maintenant, je vous ai fait le schéma pour autre chose, donc c'est bon, c'est bien, on commence. Voilà. Donc, à cause des questions du gène, mon esprit s'est rétracté. Je peux effectivement aggraver cette rétractation. Si j'aggrave, deuxième solution, le contraire d'une grâce actuelle. Je rencontre un mec, c'est un thérapeute ostéopathe, mort formidable, et il est là, et puis il utilise des méthodes, comme vous disiez vous, complètement bidon, hein, et bidon, c'est-à-dire qu'il essaie d'avoir des intuitions, de sentir le truc à distance, ça doit être dans la partie gauche, enfin droite, hein, voilà. Et du coup, il va directement, vous voyez, il fait du médium, de la médiumnité, il essaie de produire les champs vibratoires pour aller plus vite, pour être plus efficace, etc. Donc, à partir du moment où il fait ça, ou alors je vais voir un gourou, les gourous, c'est ça, je vais voir Sai Sai Baba, c'est pas compliqué, si vous voulez vous ouvrir tous les chakras, vous allez voir Sai Sai Baba. C'est très simple. Comme la sœur Emmanuel, le médiumiste, pareil, vous allez voir Sai Sai Baba, et tous ces chakras vont s'ouvrir. Eh ouais, c'est une combat. Bon, peu importe, mais c'est le nombre de gens, moi j'en connais au moins une vingtaine de gens qui ont été, ou sont fait ouvrir les chakras par Sai Sai Baba. Mais peu importe, Sai Sai Baba ou autre, oui mais attends, je te dis, je m'excuse, mais quand on s'est fait ouvrir tous les chakras par Sai Sai Baba, c'est pas 10 ans. Hein. Alors, donc ça c'est une autre parenthèse fermée. Je vais voir un gourou. Et il a tous les démons sur lui. D'accord ? Lui, il s'est super rétracté, le truc, donc il a une effervescence métaphysique complètement dingue. Il est en plus médecin, tu te rends compte ? Et puis en plus, il dit, je me servis bien. Et puis en plus, il a un bon regard pacifique, apathéique. Il m'inspire confiance. Et tout le monde dit qu'il est super. Et qu'il fait beaucoup de bien. Et en plus, il est christique. Il parle tout le temps l'évangile de Saint-Jean. Comment ça, hein ? Et alors, Marie, pour lui, la reine immaculée du monde, le principe de nous manifester, c'est formidable, hein. Alors, avec ça, vous êtes vraiment bien foutu. Et en plus, il a des apparitions dans le Donc un mec plus branché que lui, tu rêves, hein. Bon, alors, tu vas le voir, et puis il te regarde, et ici, par simple, ou comme Gurdjieff, si vous voulez, vous allez voir Gurdjieff, heureusement qu'il est mort, cette espèce de salopard. Mais n'empêche que, n'est-ce pas? Mais il s'approche de toi, il te regarde, et si tant est que tu as une scène quand vous ferez, vous verrez ça avec Maitreya. D'ailleurs, j'espère que vous ne verrez pas. Dès que vous avez une photo, je dis bien une photo seulement de Maitreya, vous ne la regardez pas. Et dès qu'il apparaîtra à la télévision, d'ailleurs il commence déjà à apparaître à la télévision, mais maintenant il a des techniques, on y reviendra sur ces techniques modernes qui permettent Maitreya, ce Maitreya là, entre le poste d'écran de télévision et vous qui regardez, d'être visiblement présent sous vous et de vous regarder.
Dans les chambres aussi, là, par exemple.
Oui,
comment on peut s'en débarrasser?
J'y reviendrai. C'est la production de champs morphogénétiques particuliers, mais attends, j'y reviendrai. Pour l'instant, on n'en est pas là. On regarde les structures profondes du corps. Si vous voulez bien, on ne peut pas mélanger tout, d'accord? Alors, on a 6 jours. Bon, alors, je m'excuse, on mord à chaque fois, c'est un petit peu, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Hein. Alors, donc, je dis simplement, une chose est sûre, c'est que si je suis en contact avec un de ces types qui sont, soi-disant, monéiquement réalisés, donc ça veut dire qu'eux, ils ont complètement concentré toute l'existence métaphysique jusqu'à l'alignement absolu, hein, du Ivan Mukta. Bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous rentrez un temps soit peu en relation avec lui, par le regard, son regard est métaphysique, votre regard a une partie métaphysique, regardez ici. Alors du coup, ça fait vaste communicant. Et alors, du coup, son intensité, qu'il y a en lui, alors là, je ne peux pas faire un tissu, on recommence. Mon esprit vivant est dedans le corps humain quand Dieu me crée. Et si, quand je suis dans le mariage spirituel de la sainteté chrétienne. Bon, avec le péché, il y a une rétractation de l'esprit. Du coup, j'ai beaucoup de vie psychologique et le point de vue spirituel, il faut vraiment que je m'enfonce dedans profondément en moi pour retrouver le point de vue spirituel. Et encore, il faut que je sois dans la lumière de Christ et de Jésus et de l'Église. Mais si jamais je vous explique schématiquement ce qui se passe dans le Sahasrara, c'est qu'il rétracte beaucoup plus par la puissance, par l'impression analogique, la puissance intermédiaire avec laquelle il est rentré en relation personnelle, intense, et factuelle et définitive. Alors à ce moment-là, vous voyez, la rétractation se fait de manière encore plus. Alors, cette partie supplémentaire, la rétractée, normalement elle doit être habitée par la vie spirituelle de Saïd-Sababa. Elle n'est plus habitée que par un vide psychique dans lequel, mais psychiquement, la lumière vivante de l'âme, c'est mon deuxième étage de tout à l'heure, porte à peu près 15 à 18 fois moins d'intensité que la présence spirituelle de mon âme. De sorte que si j'ai rétracté, la place de mon esprit va faire une concentration psychique à l'intérieur de mon âme psychique et la surmultiplier. C'est pour ça qu'on appelle ça une présence de concentration métapsychique et on appelle ça donc du métapsychique. Pourquoi métapsychique? Parce que c'est du psychique mais c'est pas du spirituel et c'est méta parce que ça s'est surmultiplié et c'est ce qui explique du coup que ça déchire les centres corporels et c'est ce qu'on appelle dans les langages orientaux la luminosité des chakras. Bon, continue. Mais attends, j'ai pas besoin d'aller en Orient pour voir le chakra. Que j'aille chez Martin, chez Rosé Christian, que je lise une revue, que je commence à m'intéresser aux ovnis, etc., à l'Égypte et machin, que je commence à rêver, que je fais ma méditation transcendantale, ou que je me passe ostéopathiser, ou kinésiotologie, etc. Hein?
Ou coucher avec n'importe qui.
Ou coucher avec n'importe qui, par le point de vue évidemment de la sexualité. Je me chope évidemment toutes les métaphysismes surabondants, ça évidemment. Merci non, beaucoup de préciser.
La magie égyptienne, c'est pareil.
Pareil ou encore pire. Non, pire que la magie égyptienne. Pire, non, je ne peux pas faire pire. C'est impossible de faire pire. Ouais. Je n'ai pas osé en parler tellement ça me...
Non, écoute-moi.
Donc, ici, vous comprenez bien pourquoi on passe du psychique au métapsychique. Vous avez bien compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Très bien. Voilà, si mon esprit rétracte, la partie rétractée encore supplémentaire de mon esprit par rapport à mon corps, cette surface là où ce volume, si vous préférez, cette manière de parler, c'est bien, c'est pour faire comprendre. Cette partie là, elle devrait être occupée par le spirituel, même avec l'amour de ses parents, même avec les 14 éclatements de l'unité originaire. Mais du coup, elle est surintensivée psychiquement, cette deuxième état psychique, et du coup, ça prend une place terrible, et ça fait exploser le corps. Et du coup, le corps explosant, voilà, je rétracte de beaucoup, hein, supposons, je rétracte beaucoup comme ça. Du coup, la partie libérée par la rétractation, grâce au contact que j'ai eu avec M. Gourgiev, en couchant avec lui, par exemple, si vous voulez. Même sans coucher avec lui, vous savez. Alors, ça sent bon. Alors, même imaginativement, hein.
Écoutez.
Même imaginativement, hein. Pardon, mais l'oreille, ça suffit. Alors, là, ici, ça fait ça. Mais du coup, cette partie qui est difficile, elle va avoir une intensité de lumière qui sera psychique, mais qui sera environ 18 fois plus importante que la partie. Normal. Et du coup, vous imaginez bien que ça va faire exploser, déchirer son corporel, selon la manière et le vibratoire dans lequel il aura introduit son métapsychique, ce sera l'azigo, ce sera le rouge, ce sera le bleu, ce sera le jaune, le tchèque. D'accord ? Donc vous avez qui va exploser. Et du coup, vous allez sentir que. C'est l'impression d'un seul coup de rentrer au ciel. Ou alors, l'amour inextinguible qui sortit de votre cœur d'un seul coup. Vous avez découvert l'amour, c'est là grâce à lui et tout. Et vous avez donc, ou alors, bon, descente corporelle. Et oui, pourquoi? Parce que vous allez partir en astral. Le voyage astral. Vous avez plusieurs techniques, hein. Le pacte avec Lucifer. Le point de vue ésotérique de la rose croix. Vous prenez aussi de l'héroïne. Et aussi, un truc très très bon là, pour le voyage astral, ça. C'est la titre. Prenez le c'est excellent.
L'expérience après la mort.
Near Death Experiences. Hein, donc, l'approche de la mort. Tu tombes dans le coma. Tu tombes dans le coma, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas mort. T'es pas mort. C'est pas du tout mort. C'est simplement qu'il y a eu un choc. C'est si peu spirituel que du coup ça rétracte encore plus ton monde spirituel parce que tu as un sens, c'est mon culpabilité très très fort. Du coup, ça rétracte encore plus ton monde spirituel. Du coup, tu pars en astral, mais il y a encore le fil spirituel que tu ignores. Tu pars en astral, tu vas dans les fréquences, tu balades avec des gens, tu rencontres des êtres de lumière et d'amour. Tu te dis, mais c'est l'amour, il faut que tu retournes dans la terre, tu n'as pas fini ta mission. Tu es beaucoup plus gentil que les gens. Et une fois que tu as bien été en communion avec ces êtres métaphysiques, tu reviens et tu te dis, j'ai vu les êtres de lumière, j'ai compris qui avait Dieu. Et le Dieu que tu as rencontré, c'est celui qui se fait Dieu, à la place de Dieu. Voilà où mène l'immaturité spectaculaire des gens d'aujourd'hui. Spectaculaire. Alors, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important de comprendre comment... Ah oui, parce que moi pendant 6 ou 7 ans, je me suis occupé de la foi. Communauté d'accueil, de drogués, quoi, de gens qui se défonçaient. Mais à mon époque, c'était surtout l'acide. C'est les années 70, tu vois. 70, 72, 13, 14, 15, 16. Alors, eux, c'était parti à l'acide, tu vois, c'était l'époque Katmandou, tout ça, ils partaient à l'acide. Mais c'était l'époque aussi où très, très. Très à la mode, la rose croix quand même, c'est sympa. Mais en fait, c'est pareil, que tu ailles dans faire de l'ésotérisme gnostique, que tu ailles faire de la magie égyptienne, que tu ailles faire du voyage astral, que tu ailles te faire ouvrir le chakra par Sacha Baba ou par n'importe quel gourou ou médecin machin, que tu fasses de la médecine crypto, je sais pas quoi, comment ça s'appelle ça, avec les couleurs, les machins et les trucs, c'est pareil. C'est toujours pareil, c'est une contraction, c'est une technique de contraction du point de vue spirituel, de suractivation psychique en état psychique, et d'ouverture de son corps. Et du coup, regardez, ma ceinture ici. Ah. C'est normal, hein. Si je suis normal, c'est-à-dire comme mon frère jumeau, voilà, c'est ici. Voilà. Là. Ça me sent mal quand même, hein. Qu'est-ce que j'ai mal, hein. Oh, docteur, je ne sais plus des mots. Oh, qu'est-ce que je me sens bien, docteur. Imbécile. Que je me sens mieux, docteur. Mais tu te sens mieux, imbécile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu te sens mieux? Et tu te retrouves avec des tatins? Je me permets de raconter une histoire que le docteur nous a racontée l'autre. Je vais arrêter, je parle d'une expérience personnelle, qu'il n'osera jamais le dire. L'épouse de Jean-Claude avait une maladie mortelle. Enfin, il fallait se faire opérer. C'était dans l'estomac, je crois. Dans le foie. Donc, dans le foie, les médecins disent, écoutez, vous avez un cancer, hein, il faut faire l'ablation de la fumeur. Jean-Claude lui téléphone à un de ses amis, tout ça, les médecins disent, bon, je suis inquiet, et ta femme, ben, moi je suis inquiet, justement, vous allez faire l'ablation de ta fumeur dans le foie. Et l'autre lui dit, mais Dieu me dit, par la normalité, c'est une goutte de rac. Non, il ne faut pas qu'elle aille se faire l'ablation, sinon elle va mourir. La mort immédiate. Alors, Jean-Claude, du temps. Cette histoire. Tu vois, pourquoi? Non, il ne faut pas qu'elle le fasse. C'est pas possible, pas. C'est normal. Puis c'est évident, quand même. C'est ma femme. Non, fais-lui faire immédiatement une fibroscopie, je sais pas. Un scanner. Bon, ok, je vais faire un scanner rapide, mais attends, tu me fais tes pieds. Bon, on accroche, on fait un scanner, et puis on voit pas grand chose, on voit effectivement une espèce de boule. Rien ne prouve que ce soit pas un cancer, après tout. Bon, écoute, mon pote, tu es complètement bourré, hein, il y a vraiment une tumeur. Non, espèce de fou, faut pas aller, je vais mourir immédiatement. Extraordinaire. Alors, écoute, je vais lui faire un IRM. Je t'assure là-haut, si, je t'assure. Alors, on s'est fait un IRM immédiatement et on s'aperçoit donc que c'était pas une tumeur et que c'était donc un caillot de sang. Donc, si on avait fait l'ablation, c'était l'hémorragie interne et la mort immédiate. Donc, voilà que mon épouse, elle se trouve mieux. Mais l'origine divinatoire de ce mieux, je ne discute pas, hein, je constate, hein, vous avez constaté, hein, donc vous avez donné cette constatation. L'origine divinatoire de ce mieux a fait que du coup on ne l'a pas opérée, elle est toujours vivante, mais à partir de ce jour-là, elle est possédée par le démon. Elle est possédée par le démon et le porteur Claude mène une vie d'enfer depuis. Et la pauvre femme est possédée par le démon, ainsi que son fils. Ainsi d'ailleurs, les biens qui sont entre vous, les possessions que vous avez, etc. Alors, excusez, mais sous la fait de la bruit, mais pas à n'importe quel prix et pas par n'importe quel moyen, parce que je m'excuse, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à quelqu'un qui pratique la médiumnité paranormale ou des champs vibratoires pour deviner, ou s'adresser à la prière, au sacrement des malades? Ah, j'ai cru à ceux qui utilisent et la grâce de Dieu, et le fruit des sacrements, et la vie spirituelle, et le processus de l'union transcendante, et l'incarnation du corps, de l'âme et de l'esprit. On obtient exactement les mêmes. C'est pas des intuitions d'ailleurs, c'est des évidences de bon sens. Uniquement avec le sens de souci. Alors, au moins en tout cas, grâce à ça, il n'y a pas cette coopération avec la complaisance des puissances intermédiaires qui circulent dans les toboggans libres des fréquences métaphysiques. Est-ce que ça va? Donc maintenant, le but de mon opération, c'est pas ça, mais c'est vraiment sûr. C'est toujours des divagations.
Physique. qu'il y a donc, ça, puisque ça peut se contrôler et se mesurer, ça répondrait à la loi de l'équilibre osmotique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la même concentration d'un côté comme de l'autre. Ça répondrait à cette loi. C'est pour ça que plus il y a cette espèce d'imagination là, qui libère de l'espace, plus il y a une avidité à faire entrer.
Oui, c'est le principe de... C'est le principe de l'entropie. Hein. C'est, si tu mets un gaz dans une pièce, il a tendance à s'y répandre.
C'est pour ça que je reprends ce que j'ai dit avant avec les produits laitiers ce matin. C'est ce phénomène-là qui se passe bon, au niveau physique et donc là au niveau métaphysique et métapsychique.
Bon, alors, oui, nos produits laitiers, oui. Je n'ai pas suivi votre histoire de produits laitiers, mais bon.
On en parlera alors.
On en parlera, d'accord. Bon, alors, simplement, ce que je voulais simplement dire, c'est ceci. C'est ceci, c'est que nous, s'il faut faire une recherche de l'apprentissage thérapeutique médical de la douleur ou de l'homme, il faut arriver à comprendre la différence qu'il y a entre le processus diabolique, qui est là, et le processus naturel, qui est ici, réaliste. Alors, le processus réaliste, il implique cette course vers l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, dans l'union transformante du mariage spirituel. Donc il faut passer de là à là. Donc, attention. Si effectivement, j'ai ici une maladie, que j'arrive à la résoudre par l'extérieur, voilà, tac, je te prends le coccyx, tu te rallonges, clang, ton coccyx qui était comme ça, il revient comme ça, tu as 2 cm de plus dans ta gaine, hop, tu vas mieux, du coup tu as moins mal, du coup tu te sens mieux, du coup ça va mieux, tu respires, ça va, tu t'as super, ok mec, bon, alors, mais, le problème c'est que, mais attends, mon mal là, ben, c'était ma lumière vivante de l'âme qui alimentait, qui faisait lumineusement vivre ce mal, cette douleur. Donc si je l'enlève, il y a un mal que je n'ai plus, qui est alimenté par mon âme et qui se nourrissait de ce mal, qui le faisait vivre, qui s'en nourrissait. Parce que tout mal est en nous, est produit par nous. Et nous le nourrissons, et nous nous en nourrissons. C'est un principe primordial. Merci, Gilbert. Et nous nous en nourrissons. Alors, le résultat, c'est que si moi, docteur Jean-Claude, j'arrive, et puis, hop, je t'enlève ton mal, hein, pas mal, je termine le coccyx, tu n'as plus de sclérose en plaques. Hein, ça fait 30 ans que tu es sur la torture. Mais oh ah, moi j'étais habitué dans mon âme. C'est chic, hein, c'est chic. Pas maturité, mais l'immaturité, elle est là. Hein. Mais j'étais habitué, moi, à avoir mon mal, hein. Alors, la terre tourne, hein. Voilà. Et à un moment donné, ben, je dis, ben, attends, il faut bien que... C'est du mal quand même la douleur. Hein? Et il faudra bien que mon âme, elle ait la correspondance. Donc elle va se tourner vers un autre mal. Mais cette fois-ci, puisque le mal dont elle a été guérie est un mal purement physique, elle va avoir tendance à se tourner. Elle va avoir tendance à se tourner vers un mal. Moral, vers un mal psychique, une névrose particulièrement grave, vers un mal démoniaque. Si c'est un être de ténèbres qui peut le remplacer, voilà pourquoi, quand on va voir, la Sainte Vierge ou des grands saints, comme Marc Robin, etc., d'écouter, j'ai le moyen de guérir un monsieur qui a fait un pacte vrai, il est un peu spécial, c'est un Yuval Nukta, un éveillé, c'est l'adjoint direct du Dalai Lama, vous voyez, donc c'est formidable, donc le Rinpoche en question, adjoint direct du Dalai Lama, moi j'ai lu les textes, lui, il a dit, moi mon but principal c'est la destruction de toute trace de christianisme en Europe. Donc moi je vais le guérir ce matin, hein. Donc je vais enlever son mal physique,
Et bien, du coup, il aura une puissance supplémentaire vers un autre mal. Et pour lui, le mal, je sais à l'avance, qu'est-ce que ce sera. Ce sera un démon supplémentaire, mais particulièrement puissant. Alors voilà pourquoi, si je vais voir Marthe Robin, s'il est encore vivant, je lui demande conseil, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour guérir cet homme? Elle dira, non, non, laissez-le. C'est pas la peine. Vaut mieux pas. Ou si je vois un paysan perdu dans la montagne du Bas-Cantal, pas, il dira, non, 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 ne le faites pas. Vaut mieux pas.
C'est une des causes souvent de... Quand les gens sont attaqués physiquement par le démon ou quoi, ou dans les douleurs, le démon, c'est une des choses qui leur dit souvent, si tu arrêtes de prier ou si tu arrêtes ça, tu n'auras plus mal.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'inverse,
il leur dit,
quelqu'un qui est possédé, il dit, si tu arrêtes d'aller à la messe,
tu auras plus mal.
T'inquiète pas, tu auras plus mal.
Tu
n'auras plus de problème. Bon.
Je guéris quelqu'un. Mais attends, ça fait 20 ans qu'il est avec ce truc-là. Autre mal qui peut se produire, la première tentation qui vient sur lui, elle rentre dedans comme dans du beurre. Mm-hmm. Autre possibilité, ben ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, hein. Autre possibilité, celui qui m'a guéri, du coup je me sens mal parce que mon âme, il m'a enlevé une chose dont mon âme se nourrissait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui en vouloir du coup au docteur Jean-Claude. Et donc, si j'en ai besoin Jean-Claude, n'importe quel autre, et je suis sûr, je n'ai pas besoin de vous poser la question, mais je suis sûr que 90% des gens que vous avez guéris, ils vous flambent dehors, ils vous détestent. Hein? C'est normal. C'est tout à fait normal. Bah, et si ce qu'on a constaté, par exemple, ou alors, il peut y avoir une espèce d'ingratitude. Vous savez ce que dit saint Thomas d'Aquin à propos du sacrement de confession? Que le péché mortel qui va contre le sacrement de confession, c'est l'ingratitude. Pourquoi? Parce que le sacrement de confession enlève le mal. Et ce qui est vrai au niveau du sacrement de confession, qui enlève le mal sur le plan surnaturel, est vrai aussi au niveau du corps, c'est que si j'enlève effectivement un mal, eh bien, l'âme sera immédiatement portée à une profonde ingratitude. Mais ce ne sera pas forcément vis-à-vis du thérapeute, parce que si finalement il y a une amitié avec le thérapeute, l'ingratitude va se porter sur autre chose. Ce sera une ingratitude, vous voyez, c'est assez variable en fait. Il faudrait regarder, faire toute la liste de toutes les possibilités. Mais par exemple, une chose qu'on reviendra dessus, parce qu'à un moment on va parler du cancer. Mais une chose sur le cancer qui est tout à fait caractéristique, sur les 120 personnes qu'on a guéri du cancer à Montpellier, eh bien, il y a une règle, une loi dans laquelle on n'arrive pas à sortir, sauf si on prévient les gens avant de ce phénomène-là, sauf si on les prévient avant. Si on les prévient avant, c'est pas pareil. Si on les prévient avant, eh bien, ils sont guéris du cancer, un an après, 2 ans après, 3 ans après, ils devraient être morts depuis 2 ans, ils savent que c'est ça qui les a sauvés, et je vous affirme qu'ils sont d'une ingratitude, d'une espèce de critique, d'un mépris vis-à-vis de ce qui les a sauvés. Comme je parle de la médication elle-même, par exemple. Vous êtes en train de travailler, de vous guérir au sandal. Comme je vous ai prévenu avant, vous n'aurez pas ce phénomène. Mais il faudrait passer attention une fois qu'il sera parti. Hein. Bon, alors, tiens, bon. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire, ça, ce phénomène-là. Si on prévient les gens avant, alors à ce moment-là, ça va, ils ont compris. Alors, mais oui, merci. Alors ici maintenant, rapidement, très très rapidement, vous voyez, je vous donne simplement les grandes lignes, c'est très schématique.
Il ne suffit pas de comprendre.
Hein?
Il ne suffit pas de comprendre. Ça ne suffira pas pour protection.
Non, mais je ne parle pas de la protection, je ne donne aucune protection, je donne les lois de la nature. Donc, je ne parle pas de protection pour l'instant. Je dis simplement, ici, à partir du moment où je sais que ce phénomène-là se produit, il faut quand même que je sache que le mouvement, c'est celui-là. C'est pas celui-là. Si c'est celui-là, il conduit dans les fréquences déchues. Si c'est celui-là, voilà le partage des autres, la nouvelle thérapie. Hein. Une thérapie qui est de Dieu et qui est de l'homme, et l'autre qui est des fréquences métaphysiques. Et qui relève, et qui est la porte d'entrée, c'est les champs vibratoires. Facile? Regardez, c'est comme ça. Pendule, radiesthésie,
sourcier, machin, truc. Là, sur les sourciers, je pourrais vous en raconter, j'en ai une pagaille. Hein. Voilà. Alors, non, mais pourtant, c'est bien les sourciers, oh. Ben voilà quoi, il y a des prêtres et tout. Ah ouais. Bon. Alors, bon, il faut aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que si ça s'est ouvert, il faut absolument que mon esprit ait une croissance correspondante. Sinon, ma guérison physique sera une catastrophe pour l'unité de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Et ça, si je suis médecin et que je ne dis pas ça à cette personne que je soigne avant qu'elle ne soit guérie, je suis un salaud.
Parce qu'il y a corrélation sur le reste du monde, puisque chaque...
Ah oui, non, mais je suis un salaud parce que je le guéris de ça, mais du coup je le mets dans la direction, puisque dans la direction d'un mal plus grand. Ce n'est qu'un mal physique, après tout. Alors, du coup, comment est-ce que je vais faire? Donc, toute la question, ça va être quoi? Ça va être comment est-ce que je vais faire pour passer de ça à ça? Eh bien, c'est très simple. Pour passer de l'espace 1 à l'espace 1,10, n'est-ce pas, de la présence de mon esprit, de mon esprit vivant, il faut que je reçoive une nouvelle grâce à l'intérieur de mon esprit, une nouvelle grâce chrétienne, et il faut bien sûr profiter justement par gratitude, il faut que du coup je me tourne vers ce mal perdu, je l'offre à celui qui s'est perdu dans le mal, Jésus crucifié, et du coup je vais me nourrir, mon âme va se nourrir, comme ça, elle va faire comme ça. Voilà. Elle va faire comme ça, elle va se tourner vers l'intérieur et elle va se nourrir de Jésus crucifié. Parce que Jésus crucifié, c'est un mal pour l'âme psychique, mais c'est un bien pour l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, et c'est un bien pour notre vie contemplative, c'est un bien pour notre cœur spirituel, c'est un bien pour la mise en place de notre corps spirituel, c'est un bien pour Dieu, c'est un bien pour l'union transformante. Alors voilà, du coup j'irai voir du coup le film de Mel Gibson. Et je regarderai, je vais m'abreuver de Jésus crucifié pour me nourrir de Jésus crucifié, et je vous affirme que le mal laissé libre, mon âme va s'abreuver, quelque chose qui fait très mal au point de vue psychique, des gens complètement immatures que nous sommes, mais du coup, ce mal, mon âme va s'abreuver de ce mal, et bien, du coup, elle sera bonifiée, et du coup, ma grâce en Christ va augmenter. Je peux aussi, si je fais, je suis rentre dans un processus de guérison, etc., si je médite tous les jours, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, en disant les oraisons de Sainte-Brigitte, 15 oraisons de Sainte-Brigitte, 20 minutes par jour, je vous affirme que vous n'aurez jamais un phénomène d'ingratitude ou un phénomène d'infestation à la suite d'une thérapie de refus. Ça, c'est pour ça que je vous ai préparé pour chacun un petit livret sur les oraisons de Sainte-Brigitte. Chacun va dire les oraisons de Sainte-Brigitte tous les jours. En plus, celui qui disait les oraisons de Sainte-Brigitte tous les jours, je vous signale que c'est quand même assez génial. Ça a fait l'exorcisme, parce que si vous avez dégorgé pas mal, hein, ça va bien comme ça, vous voyez. Bon, ça brûle. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure qu'un an. Alors après, faire des ans et après c'est bon. Ah, je me sens mal, hein, ça me va beaucoup mieux quand j'étais dans le Reiki, mais oui. Alors, vous avez compris le problème, parce que c'est la purge du purgatoire, alors là vous allez exister, mais 100 fois plus. Hein. Il faut faire ici, hein, faut faire sur la terre, il ne faut pas faire ailleurs. Hein. Bon alors, simplement comprenez bien qu'une chose est sûre, c'est que si mon âme, elle s'alimente d'un mal, mais c'est parce que psychiquement, je n'aime pas prendre comme nourriture la souffrance pour mener à Dieu dans Jésus crucifié. Et donc voilà. Donc finalement, si je guéris quelqu'un, bien sûr, premièrement, je vais prier en unité, moi, thérapeute, avec Jésus crucifié, pour commencer, de préférence. De manière à faire le contraire de Sai Sai Baba, c'est-à-dire de communiquer à mon malade, que c'est Jésus crucifié qui lui communiquer une grâce actuelle, même sans lui en parler, hein.
Le seul fait que je sois venu à Jésus-Christ tandis que je suis en train de lui remettre son coccyx, là, alors vas-y, allez-y. Je l'ai crucifié pendant cela. Vous êtes extraordinaire, je suis sûr. Je l'ai crucifié qui est en train de mourir. Pendant que je mets son coccyx. Vous lui donnez une grâce actuelle au mec, hein? Vous êtes en train de le toucher. Et puis après, vous lui dites, tu sais, tiens, voilà les oreilles dans un brésil. Hein? Et puis, comme thérapie numéro 1, le film de Mel Gibson. Parce que si tu prends pas le film de Mel Gibson, tu l'auras dans 3 mois. Ce que je t'ai fait, ça te dit bien, mais dans 3 mois. Alors, bon, ça je vous signale, c'est très 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 simple, comme c'est un peu caricatural, c'est bien, mais n'empêche que c'est très très simple, c'est très élémentaire, c'est très vrai, c'est très vrai. Et du coup, grâce à votre thérapie, vous aurez respecté l'unité profonde de la grâce surnaturelle, de l'esprit vivant, de la lumière vivante de l'âme, du corps blessé. Et, voyez, et le processus de la transformation de la maladie en rédemption du monde. Et du coup, ça aura été également un exorcisme. Donc vous avez utilisé une maladie physique comme un exorcisme. Au lieu que la plupart du temps, les médecins d'aujourd'hui utilisent la maladie comme porte ouverte à faire pénétrer les puissances intermédiaires dans leur maladie.
Pour le retour.
Donc vous avez la différence entre la mystique du Christ et la mystique de l'Antichrist, du point de vue de la thérapie du corps.
Est-ce que c'est la même chose pour guérir les maladies non physiques?
Ah, pareil, psychologique.
Les attaques des esprits, non pas psychologiques, non, mais... les attaques des esprits. Des
ah ben l'exorcisme, c'est autre chose. Non, c'est... l'exorcisme est autre chose. L'exorcisme, c'est une prière que l'Église fait pour chasser... pour chasser l'influence d'un démon sur vous. Hein? C'est autre chose.
Il y a une chose qui est importante, c'est d'aller en confession. Moi, je dis aux gens, allez en confession, peut-être que le Seigneur ne vous donnera pas plus de grâce.
Non, mais bien sûr. Non, mais simplement, ce qu'il faut comprendre. Non, la seule chose qu'il faut retenir, c'est les 5 étages du corps. Vous avez un corps qui est animal, mais ce corps est également un corps originel. Ce corps originel est un corps de lumière, il n'y a pas de corps éthérique. Le corps éthérique n'existe pas pour un chrétien.
Animal, originel.
Corps animal, corps originel.
Le corps originel.
Vous avez un corps psychique, cette partie-là, vous voyez. Après la rétraction, vous avez un corps psychique. Vous avez un corps spiritualisé. Et vous avez un corps sanctifié qui est, lui, en harmonie parfaite avec le corps spirituel qui est dans le livre de vie de la résurrection. Et la conjonction entre cette semence du corps spirituel qui est dans le livre de vie de la résurrection au ciel et ce corps sanctifié parfait produira en vous la résurrection. Donc, vous voyez, il y a quand même 7 étages au corps, à la nature du corps et à la manière dont le corps humain se différencie de l'animal.
5.
Oui, mais là, je viens de rajouter le corps spirituel et la conjonction après le corps de résurrection. Sur la Terre, 5. Mais sur l'ensemble de la vie. Non. Vous avez un corps comme les animaux. Vous avez un corps, deuxièmement. Il est créé par Dieu, corps originel.
Oui.
Unité du corps, de l'âme, de l'esprit, vivant de la présence. Puis. Rétractation péché originel, il y a une partie du corps qui devient psychique. Hein. La plus grosse partie de la conscience du corps est psychique. C'est plutôt l'esprit qui anime le corps. Ou alors il faut passer un très gros effort pour vivre spirituellement à travers le corps, de votre corps. Mais sinon, vous êtes un corps psychique. Vous avez un corps qui se spiritualise à chaque fois que la grâce sanctifiante augmente dans votre âme. C'est un corps spiritualisé, et en particulier la signification sponsale du corps est quelque chose de très très important. La mise en place de la signification sponsale du corps, je parle de la manière de gérer la virginité, la chasteté du corps dans la lumière tout à fait extraordinaire de l'unité de chair de l'homme et de la femme, ça c'est tout à fait la voie, le raccourci pour spiritualiser le corps le plus vite possible. Le contraire, c'est évidemment de ne pas vivre de la chasteté. Bon, maintenant,
spiritualisation du corps, c'est un corps spiritualisé, jusqu'à ce que le corps soit totalement sanctifié, union transformante septième demeure, mais ce corps sanctifié est en harmonie parfaite, et avec le corps originel d'origine, et avec le corps spirituel qui est inscrit dans le livre de la vie, tout ça, ça vient du pape Jean-Paul II, hein, ce que je vous dis là, hein. Je n'invente pas. Hein. Pape Jean-Paul II, signature, pape Jean-Paul II, Carole Walsh, tu vas. Bon, et si vous mettez ici le corps sanctifié en harmonie avec et votre corps originel et le corps spirituel inscrit dans le livre de vie, vous produisez le germe de votre résurrection, vous pouvez vivre dès maintenant de votre corps de résurrection de cette terre. Et ça, vous avez ici tout le but de la vie, de la spiritualité du corps, qui est la spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité passe par le corps. Donc dès qu'on veut désincarner dans le monde éthérique, dans le monde de lumière, dans le corps de machin, tout ça c'est diabolique. Le corps éthérique, ça doit être rayé de la carte de notre vocabulaire. Le corps de lumière, ça doit être rayé de la carte de notre vocabulaire.
Il n'y a pas de corps de lumière.
Il n'y a pas de corps de lumière. Le corps, c'est de la matière vivante.
L'histoire du corps astral.
Le corps astral, c'est rayé de la carte de votre vocabulaire.
Et le corps glorieux aussi.
Le corps glorieux, c'est à intégrer dans la carte de votre vocabulaire.
Le corps glorieux, c'est le corps de résurrection.
Oui, c'est votre corps ressuscité. Mmh. Donc voilà. Donc, il faut avoir intégré toutes ces choses complètement élémentaires qu'on apprend aux enfants à l'âge de 8 ans. Hein,
Dans quelle année, je veux dire,
hein, ça, c'est 1932, moi je leur fais sortir 1932.
En 1933.
Mais non, mais ça, c'est quand même.
1958.
Mais non,
enfin,
ça, c'est élémentaire, ça, c'est bien là-bas.
En
1858. Non, mais en plus, c'est seulement la table des matières. Bon, alors. Mais au moins, il faut avoir au moins intégré ça. Pour comprendre, voilà, ça, c'est la structure. Maintenant. Tout ça, ça s'inscrit dans un dynamisme. Le dynamisme, c'est que, je le répète, parce que je le répète bien fort, si vous enlevez un mal, vous enlevez un mal à quelqu'un, vous enlevez un mal, donc cette âme, l'âme de ce père, l'âme psychique, hein, le corps psychique, cette âme a besoin d'un nouveau mal. De quelle nature, où va se tourner cette âme en mal de psychique, en manque, si vous voulez, de mal du corps psychique? Elle va se tourner. Quel est le pire de tous les mâles du corps psychique? C'est la détermination métapsychique du corps. Donc vous allez tourner finalement presque naturellement, si la personne ne fait aucun effort, si elle n'est pas prévenue, elle sera nativement orientée vers s'intéresser vers ce qu'on appelle aujourd'hui les médecines alternatives, etc. C'est-à-dire celles qui utilisent le monde métapsychique des énergies et des champs vibratoires. Et le tour est joué du tintin, vous comprenez? Voilà. Donc, il faut quand même... oui.
Oui, pardon. Pourtant, c'est une question. Pourtant, quand on est malade, on a tellement envie d'être guéri que, bon, notre âme aussi, si on prie après très fort, pas forcément on tombe dans cette carence.
Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que... C'est pour ça que je veux dire que le mal... du corps psychique, dans, qui en manque de mal psychique dans son corps psychique, ça peut très bien être une espèce d'ingratitude, de rejet du médicament qui l'a sauvé. Par exemple, moi je connais au moins 7 ou 8 personnes à Montpellier. Elles auraient dû être mortes depuis longtemps, d'accord? Bon, et puis elles ont eu une rechute, une valise leur est tombée sur la tête, une très grosse, une grave rechute, avec un cancer, disons, plus ennuyeux qui revient après, vous voyez, 3 à 4 ans après, hein, par exemple. Bon. Et bien, quand il s'agit, ils savent très bien que la médication dont on vous parlera un de ces jours, je suppose, bon, qui est une médication dynamique d'une efficacité prodigieuse, puisqu'il y a 100% de guérison. Quand il s'agit de reprendre ce traitement, dis non, moi je veux pas, moi je fais confiance à la science, il me faut de la chimiothérapie. Non. L'autre jour, j'ai eu la directrice du journal Marie-Claire, vous voyez comment elle s'appelle, c'est quand même du pognon, tout ça. Bon, donc, dis moi j'ai un cancer, je meurs dans 3 mois. Elle me dit, mais ma chérie, il n'y a pas de problème, on va vous donner de la kératine, du sandane, machin, des trucs. Alors je dis, bah, si c'est ça, alors là, on va vous aider, hein, on fait de la kératine. Vous savez, on ne peut pas vous en donner beaucoup parce qu'on n'a pas de quoi le faire, il faudrait que... Ah ben moi, si je guéris, on va vous aider, hein, on va vous en donner pour que vous puissiez en faire à d'autres. 3 mois après, elle n'avait plus rien. 6 mois après, elle n'avait plus rien. Alors j'ai eu 10 mois après, au téléphone. Je dis, mais dites-moi, vous n'êtes pas morte finalement là
Ah ben non. Ah oui, mais dites-moi que vous avez pris contact avec la personne qui veut de la kératine, qui serait contente de vous le dire. Ah ben non, de toute façon, c'est pas ça qui m'a guéri, moi, c'est pas ce que j'ai pris. Ah oh, non, écoutez, non, puis je pense à autre chose maintenant. L'ingratitude, elle s'est tournée vers une espèce de un mensonge, une escroquerie, et puis surtout une ingratitude par rapport au médicament lui-même. Vous voyez, le déni sur le médicament. Mais ça, j'en ai vu 7 comme ça. Ils sont encore vivants. Et ça peut, c'est pas toujours de se tourner vers un. Ça peut être aussi que, vous voyez, mais si jamais le thérapeute, il est habité par des puissances diaboliques. En même temps, même sans qu'il manipule rien du tout pour ça, en même temps qu'il enlève le mal, presque, j'allais dire, en même temps, c'est possible qu'il y ait la compensation de ce qui l'habitue et qui pénètre dans l'autre. Puisqu'il y a un vide, comme tu dis, phénomène de vide, la nature a un vide. Donc, paf, il y a un mal, il y a un nouveau mal qui doit rentrer. Donc, ce mal qui doit rentrer, il faut prévenir les gens avant. Et dire, le mal doit rentrer en nous comme le coup de l'or a pénétré dans le cœur de Jésus crucifié. Et ce mal qui doit pénétrer en nous, c'est Jésus crucifié. Il faut que ce mal vivant qui est Jésus crucifié nourrisse notre corps, notre âme et notre esprit. Et je vous assure que là, à ce moment-là, votre guérison sera totale. Elle ne sera pas seulement au plan du corps, elle sera une guérison de toute la personne. Et en même temps, elle produira une grâce actuelle qui vous approchera de la grâce de l'union transformante de la septième demeure. Je crois que c'est assez simple.
Je confirme donc qu'il y a un transfert des névroses immédiat par les cinq sens. Alors évidemment, ça repose sur de la recherche et du travail, et c'est évidemment suivant comment passe le thérapeute, le travail qu'il fait. Si bien qu'il peut y avoir des déplacements d'une personne à l'autre, exactement comme ça, et surtout par le toucher, c'est le plus direct, le plus sensible. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention de qui nous touche, chez les dentistes et chez les tout-bibés qui ont accès à des portes terribles. Moi, une fois, j'ai fait reculer un dentiste rien qu'en récitant l'Augustin des cieux. Alors, il travaillait le pendule, je ne savais pas tout ça, mais il a reculé. C'est sûr. Il n'a pas compris.
Donc, à partir du moment où on a expliqué ça, à partir du moment où on en est extrêmement conscient, à partir du moment où on est absolument sûr qu'il s'agit d'une loi de la nature humaine, ben, à ce moment-là, le soulagement de la douleur devient quelque chose de capital. Parce que un processus de mise en route de l'âme vers la santé spirituelle parce que l'esprit se nourrit de la souffrance. L'âme fuit la souffrance, l'âme animale, l'âme lumière fuit la souffrance. C'est pour ça que les gens qui pensent être religieux ou qui fuient la souffrance sont en réalité dans une pure métapsychique animale, un animal surévolutionné. Voilà. Donc, mais l'âme fuit la souffrance, mais l'esprit humain, c'est-à-dire le cœur profond spirituel humain, la contemplation, elle se nourrit d'un dépassement de l'âme, donc elle se nourrit de la souffrance de l'âme. La souffrance est une nourriture pour l'esprit, et une vie pour le cœur spirituel, pour la liberté du don.
Et les portes de la beauté.
Et oui, et donc le soulagement de la douleur physique est une porte pour l'âme, pour trouver dans la vie spirituelle de quoi nourrir l'âme d'une autre douleur que la douleur physique inutile. Donc la douleur physique inutile est transformée par une autre nourriture qui est une souffrance plus profonde, mais qui au moins n'est plus inutile. Voilà, donc le fait de transformer la souffrance en croix, c'est le nœud, la clé de la vie spirituelle.
Après, il ne faut pas rester dans cette souffrance, il faut justement la dépasser et faire...
Comme ça, c'est le Seigneur qui fait le reste.
Oui.
Toi, tu ne peux pas dépasser ça.
Oui.
L'esprit de virginité, l'esprit donc humain, se nourrit de la souffrance pour permettre à ce moment-là la divinisation, la dignité de l'homme.
Ah, donc, comment ça, c'est vrai. Il se nourrit aussi de la beauté, il se nourrit aussi de la musique.
Non, c'est pas l'esprit qui se nourrit de la beauté, c'est le lien entre l'imaginaire, le mental, l'émotionnel, le romantique, etc. C'est pas du tout la vie spirituelle contemplative. Donc, la beauté, c'est quelque chose qui nourrit l'idéal. Et l'idéal, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est l'aspiration intime profonde qui nous porte à transformer ce qui est autour de nous. Mais l'idéal, c'est un produit de l'imaginaire et du mental. Mais c'est très personnel, l'idéal, c'est vrai, l'idéal. Mais c'est tout à fait autre chose que les trois puissances spirituelles. Donc la beauté n'a jamais nourri. Quand on dit par exemple que la beauté est un attribut divin, c'est totalement faux, parce que la beauté n'a rien à voir avec Dieu, la beauté n'est pas un attribut divin. Et si vous prenez un lys, par exemple, une fleur, c'est elle belle. Mais pourquoi elle est belle? Parce qu'elle est limitée par une forme. C'est tout. Voilà. Vous avez compris pourquoi la beauté n'est pas Dieu.
Les trois puissances spirituelles de l'âme, alors c'est quoi? Les trois?
Eh ben, c'est l'intelligence contemplative, hein, l'esprit, le cœur spirituel, la volonté profonde et la mémoire ontologique. La mémoire regardée, les trois parties spirituelles.